Je sais pas, à surjouer ou à vous inventer je ne sais quelle trajectoire pour vous en sortir. Faites comme tous ces super joueurs, comme Rasmus par exemple. Ils font confiance à leur sandwich qui a, s'il vous plaît, été conçu pour vous sortir d'une situation bien mal engagée. Et comment ? Mais en cherchant tout simplement un contact avec la balle tout en le laissant, ce sandwich, et ça c'est fondamental, le laisser vivre et le laisser circuler vers le green, vers le drapeau.
Oui, je vous fais réagir très rapidement, messieurs. Le type du 10, tout de même, il boite, il peut finir sur le trou d'à côté ouais, si
je touche pas
le, elle arrive très très vite quand même dans le trou, messieurs, rapidement.
Ouais, moi je vais peut-être te faire une passe décisive, mais c'est surtout ces deux shots, c'est dans une dynamique ultra positive, c'est-à-dire ouais. Que le shot du 10, il le joue pour la coller. Elle rentre, ça fait partie. C'est vrai qu'elle peut passer à côté. Et la sortie de bunk, moi j'ai adoré cette sortie de bunk, c'est qu'il la joue également pour la coller ouais. Et la rentrer. Et quand tu vois Rory qui joue avec le frein à main, qui subit le truc, et tu vois Rasmus qui lui dit ok, moi cette victoire, je vais aller la chercher. Et les deux shots qu'il fait montrent un mec qui veut aller gagner ouais. Quelque chose. Versus un Rory qui subit à chaque fois le truc.
Allez, garde-en un tout petit peu sous la semelle. Je vais te laisser un tout petit peu d'espace pour parler de Rory. Avant ça, Martin, d'accord avec Fabien, oui, offensif non. Sur ces coups-là. Il fait ces deux trous où il fait birdie, alors que après le premier shot, on se dit, ou le deuxième, on se dit que ça sent le bogey. Quoi.
Alors, on aurait pu se dire que la dernière journée de Rasmus Højgaard, surtout sans doigts de main, comme tu l'as très bien décrit, Ramucho, c'était un peu la journée en chauffe, machin ou quoi, caisse. Il y a une stat qui dit que non, c'est le fait qu'il est deuxième au stroke gain approach sur toute la semaine. Ouais. Donc c'est pas juste deux petits coups comme ça, deux très jolis coups du sort. C'est peut-être celui du 10. C'est vrai qu'il arrive vite. Tu dis voilà, ok, c'est la lente, c'est du bonus, tant mieux. Tu peux capitaliser là-dessus. C'est ce qu'il a très bien fait. Mais la sortie de bunker du 16, elle était précédée par une autre sortie de bunker quasiment la même qu'il a aussi failli boiter. Donc c'était tout sauf un hasard en particulier sur cette semaine-là.
Médéric.
Ouais, je rebondis juste moi sur ma partie, forcément sur le club, juste sur l'importance en fait du choix de ces wedges là, et qu'effectivement on les oublie un peu dans le sac, mais les joueurs ont tendance vraiment à les changer de manière régulière et à les adapter en fonction des parcours. Forcément, c'est plus simple pour eux parce qu'il suffit d'aller dans le camion du tour et de demander ce dont ils ont besoin.
C'est un peu moins cher aussi, ouais.
Donc ça joue, non mais très clairement. Mais par contre, effectivement, ce choix à bande spécifique, Ramucho parlait du band de la semelle. Aujourd'hui, c'était un 60 degrés en 8 de bande avec une semelle en C, donc vraiment adapté à cette typologie de parcours pour répondre justement à ces rough épais autour du green, à des bunkers un peu plus en contrebas, à des sols aussi normalement sur ces parcours-là un tout petit peu plus secs. Donc ça, c'est vraiment le choix. Donc oui, il y a la technique. Cité du joueur, il y a ses compétences, mais il y a aussi sa capacité à choisir le bon trio de wedge. C'est le cas, il avait un 52, un 56 et un 60 degrés pour répondre et donc avoir le bon club en main pour réussir ce type de coup.
Voilà, si vous aussi vous voulez faire des recovery shots d'anthologie et boiter vos approches, vous vous équipez chez Callaway, évidemment. Chose promise, chose due, mon cher Fabien. Rory nous a goinfré une victoire qui lui tendait les bras. Il avait 4 coups d'avance en ce dimanche matin. Il est en transe, mon
Non, pas du tout, mais je voudrais.
C'était chez lui, c'est triste.
J'aimerais laisser la parole à Martin. vas-y, Martin, et évidemment, je rebondirai avec délectation.
Vous connaissez tous, et c'est un jeu entre nous, même si c'est pas que un jeu, mon adoration pour ce joueur-là depuis qu'il est passé pro, même avant, je l'avais rencontré quand il était encore amateur, et c'est déjà un joueur qui m'avait scotché. Ce qui m'embête vraiment, c'est la mauvaise habitude dans laquelle il se met. Tout seul. Une mauvaise habitude, qu'on appelle ça de choquer, de d'être une poule mouillée, de se mettre tout seul en difficulté alors qu'il a le tournoi en poche. Il a le tournoi en main depuis le début de la semaine. Les stades le prouvent, je vais pas rentrer dedans, mais à part sur les greens, il n'y a pas grand chose à acheter sur la semaine de Rory McIlroy. Moi, ce qui m'a étonné vraiment, c'est le manque, une nouvelle fois, en particulier cette année, de justesse dans l'approche. Du money time, de là où justement ça chauffe et de là où justement on n'a pas envie d'aller chercher l'exploit. Le problème de Rory, une fois de plus, c'est que c'est un joueur extrêmement agressif, que sa façon de répondre à la difficulté, c'est d'agresser le parcours et que il s'est pris les pieds dans le tapis au 15 par un premier bogey parce qu'il n'a pas à la lâcher à droite sur ce par 4 et il n'a pas à se laisser ce chip très compliqué en contrebas du green et surtout au 17 où là ça commence à se chauffer tout seul et où il prend 3 putts à 8 mètres du trou. C'est pas possible quand on est à ce niveau-là, quand on prétend être à goinfrer un tournoi qui en plus est son tournoi de cœur, parce que ça se joue en Irlande du Nord, parce que c'est quasiment chez lui. Et encore une fois, on a la sensation que Rory se fait un tout petit peu dépasser par ses propres émotions et que ça manque de justesse mentale, enfin peut-être pas mentale, mais d'approche des coups, d'approche de stratégie de parcours à un moment où il faut verrouiller, quoi. Et où à un moment où, je prends l'exemple de Scottie Scheffler parce qu'on en parle à longueur de podcast, je suis pas persuadé que Scottie Scheffler dans cette situation-là ne verrouille pas totalement le tournoi et dit pas merci à bientôt les amis en faisant trois parts de suite à la fin du parcours. Donc j'en ai marre un peu de cette mauvaise habitude de Rory et qui lui-même et fait un peu sa pleureuse. Je suis très méchant là-dessus parce que c'est compliqué de juger à tel joueur à ce niveau-là. C'est évidemment compliqué pour lui, mais on le voit hyper ému, hyper touché, qu'il ne le serait pas. Mais il y a un moment, garçon, oh, vas-y quoi. T'es un bonhomme. Montre que t'es un bonhomme sur le parcours. Vas-y quoi.
Alors il a évidemment été interrogé là-dessus après le tournoi. Il a dit malheureusement. Je me suis habitué à ça cette année. J'espère que bientôt. Alors, on peut aussi voir, là je me fais l'avocat du diable, on peut aussi voir le fait qu'il est quand même souvent en contention, qu'il est quand même pas loin de la victoire. Il y a une régularité dans les top 5 cette année, c'est remarquable.
C'est fou la différence, qu'effectivement il craque 15-17 principalement, mais malgré ça, et je remets pas en cause ce que vous venez de dire, mais malgré ça au 18 d'aller mettre le drive où il a met le deuxième coup de fer qui est quand même fabuleux.
Son digueule, ouais.
Par contre c'est le putt et c'est là où on voit qu'il a pas la forme, qu'il a pu ce petit plus qu'il a porté les dernières années. C'est ce putt du 18, on sent que la balle est un peu molle.
Attendez les gars, je vais me transformer en Flavien.
Ultra tolérant. On parle du troisième joueur mondial. On parle certainement du mec qui strike le mieux la balle au monde. Le tournoi, il le perd pas là. À chaque fois, il le perd avant. Il y a un moment donné, il a 4 coups d'avance. Et en plus, dans des conditions qui lui sont favorables, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Il tape très fort. Donc il y a.
Et qui peut quasiment rentrer à la maison 7, à pied, hein. Il est 7, à côté de chez lui.
Au 7, il ne rentre pas le putt, il est à 2 mètres. Au 8, il ne rentre pas le putt, il est à 2 mètres. C'est là qu'il doit. Il avait 4 coups d'avance. Mais. Non, tu fais des gestes, mais il y a un moment donné, Scottie Scheffler, ou un Tiger à son époque, ou un Schauffele, il tue le tournoi. Il tue le tournoi avant. Et le problème de Rory, moi, je vais vous dire, Rory, pour moi, il est cuit. Il est cuit. Et pour qu'il rebondisse, et là, ça va te faire plaisir, Martin, ou il change de caddie, ou il change de club, ou il faut qu'il ait autre chose pour pouvoir rebondir. Pour moi, ça se répète, et puis on parle de cette année, mais ça se répète aussi avant. Alors, si vous me faites allusion aux deux victoires qu'il a eues cette année sur le PGA Tour...
Mais il ne faut pas les annuler, elles existent.
Non, mais c'est bon, un mec comme ça...
Une en double avec Shane Lowry aussi.
Et moi, ça me fait de la peine, parce qu'un Rory McIlroy, quelque part, c'était aussi le charisme, l'étendard, la figure de proue du circuit européen, du golf européen. Et là... Il n'y est plus, et il n'y est plus du tout. Donc Rory fait quelque chose, mais imaginez la tristesse du mec hier. Et puis le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le mec il faisait 1m80, et là je pense qu'il fait 1m50 parce qu'il prend parpaing sur parpaing, fait quelque chose, change un truc.
Hopefully the tide is going to turn pretty soon. J'espère que la marée va bientôt tourner, a-t-il dit.
S'il compte sur la marée, qu'il compte sur lui un peu.
Très rapidement, messieurs, parce qu'on déborde.
Tu l'as très bien dit, Fabien. On parle quand même du troisième mondial, d'un bonhomme qui glane plusieurs victoires par saison. On va pas refaire son CV à Rory. Et on est aussi dur que le bonhomme est talentueux et monstrueusement talentueux. Mais je suis d'autant plus dur avec ce bonhomme-là que je l'adore et que je suis absolument fan de la façon dont il joue au golf et de son approche un peu agressive des parcours en général. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il est pas assez dur, c'est qu'il est pas assez solide, que j'aimerais bien voir un Rory puncher, le Rory survolté de la Ryder Cup. Moi, j'ai envie de le voir comme ça sur des tournois, y compris des tournois comme ça du Tour européen, pour aller chercher des victoires en mode c'est moi le bonhomme, les gars. Oh, c'est quoi ce petit dommage, j'espère que la marée va tourner. Non, fais quelque chose, mon gars, mets un coup dedans, vas-y.
Bon, et peut-être que sur cette fin de saison, sur les gros tournois du DP, il réussira peut-être à aller glaner la victoire. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Pour vous, les auditrices et les auditeurs, un cadeau exceptionnel à vous faire gagner. Pour ceux qui veulent se mettre au golf, le pack All For You, légendaire désormais grâce à notre émission par Blue Green et Ugolf. Un an d'enseignement avec cours illimité, un accès illimité sur un certain nombre de parcours. Le matériel fourni, la valeur de ce pack All For You, plus de 1000 euros pour le remporter. Vous envoyez Golf, G-O-L-F au 7-32-16, Golf, G-O-L-F au 7-32-16, en gagnant sera tiré au sort. Merci beaucoup, messieurs, pour ces débats.
Merci,
Axel Drouet ou Jean-Christophe Batia. Vous n'avez pas saisi la
ressemblance?
J'y suis droitier, mais sinon il y a très peu de différences, notamment dans le morphotype et les carreaux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, 23 septembre. On sera à la veille de la President's Cup, la Coupe des Présidents. Vous en avez déjà entendu parler?
Celle-là, je crois qu'elle
va être diffusée, celle-ci, sur les antennes. On en parlera, évidemment. D'ici là, bon golf, hein, ne craquez pas, ne vous énervez pas trop. Et puis, comme JC vous cite souvent, un grand golfeur en fin d'émission, écoutez, je me mets dans ses babouches et je vais vous citer ma regrettée grand-mère qui disait « Les chaussures de golf, on est toujours ravis de les enfiler, mais jamais autant que de les enlever. » Salut.
Le Practice RMC. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
C'est la rentrée, mais on prolonge la détente avec RMC. Il vous fait rire tous les matins avec Apolline. Retrouvez Arnaud Demange en spectacle pour rire de l'actu. On en a bien besoin. Rendez-vous à Poitiers, Enghien-les-Bains, Bourges, Dijon, Marseille, Lyon, Paris et partout en France. Réservation sur arnauddemange.fr avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Saint-Malo et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio.
Cette semaine, jouez sur RMC, remportez vos AirPods
et peut-être
l'iPhone 16.
Mais pour le gagner, va falloir le déverrouiller.
RMC a 5 chiffres du code de verrouillage. À vous de trouver le 6e.
Alors, écoutez bien RMC et tentez votre chance.
Dès que vous entendez, envoyez code par SMS au 732-16.
Code au 732-16.
RMC, première radio à vous offrir le nouvel iPhone 16. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story pour une semaine de débat avec les GG, avec les grandes gueules, 9h midi comme tous les jours, RMC la radio, RMC Story la télé, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Charles Consigny, avocat, bonjour mon cher Charles.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie.
Bonjour à tous.
Bonjour monsieur le professeur.
La République des professeurs.
Et puis Zora Bitton, cadre de la fonction publique, est avec nous aussi aujourd'hui, bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous, je prends juste 2 secondes pour faire un petit coucou à Huguette et Jean-Marc, que j'embrasse et qui me manque déjà.
Bien, on peut les saluer nous aussi.
Oui. Vous pouvez les saluer, ils vous regardent.
Fidèle des GG.
Exactement.
Salut Huguette, salut Jean-Marc.
Jean-Marc Ayrault et Huguette Bouchardot.
Oui, c'est ça.
Huguette Bello, socialiste.
Jean-Marc Ayrault.
Qui se souvient de Jean-Marc Ayrault?
Jean-Marc Ayrault, ça peut encore parler, partis, mais alors là. Huguette Bouchardot, bravo mon cher Olivier.
Huguette Bello, il faut que je dise quelque chose sur Jean-Marc Ayrault. Est-ce que tu sais que Jean-Marc Ayrault a droit, en tant qu'ancien Premier ministre, à un garde du corps? À vie.
Mais tu sais que le jeune Attal qui vient de quitter après.
Va avoir droit pour 50 ans.
Matignon, jusqu'à la fin de sa vie.
Et pour 50 ans, 55 ans.
Un chauffeur, une voiture.
Une voiture, un garde-corps.
Ils nous ont emmené Huguette et Jean-Marc.
Mais tu vois, Jean-Marc Ayrault, qui voudrait tuer Jean-Marc Ayrault?
Jusqu'à ce que ce soit supprimé par des gouvernants avisés. Ce
Barnier,
genre d'avantage.
Tu crois que Barnier pourrait supprimer ça?
Puisqu'il veut en jouir lui-même, une fois qu'il y sera plus.
Je lui encouragerais. Clac, trait de plume, décret, clac, chauffeur, garde-corps, finito. Métro, passe Navigo, Jean-Marc Ayrault.
En tout cas,
ça rime.
Je salue Huguette Bouchardot, qui a 89 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, elle suit
une figure de la gauche mitterrandienne.
Oui, et c'était une rocardienne. Elle était au PSU avec Michel Rocard à l'époque où le PSU.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
voter.
La deuxième gauche.
Bien sûr, la deuxième gauche. Les amis, avant de nous lancer dans des débats effrénés, vous voyez, dans les GG, on fait des pages d'histoire et nous, contrairement à certains, quand on ouvre les pages d'histoire, on se trompe pas.
La dixième gauche, maintenant, c'est Delogu.
N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on vous fait gagner dans les GG le dernier iPhone 16. Pour jouer, c'est hyper simple. Il faut juste déverrouiller l'iPhone et connaître le dernier chiffre du code. Donc, j'espère que ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Dès que vous entendez ceci... Eh bien, vous envoyez code par SMS au 732-16. Code par SMS au 732-16. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire. Et l'iPhone 16, le dernier iPhone, il sera pour vous à gagner dans les GG, dans les grandes gueules, tout à l'heure à 11h20. Allez, on y va pour notre premier sujet de discussion.
RMC, les grandes gueules.
On va quand même s'intéresser à ce qui est arrivé de nouveau à Donald Trump. Une nouvelle tentative d'assassinat, visiblement, contre Donald Trump, le candidat des Républicains. Ça s'est passé... en Floride, sur son terrain de golf, écoutez le shérif.
Heureusement, nous avons pu localiser un témoin. Il est venu vers nous et nous a dit « J'ai vu le gars sortir des buissons en courant. Il a sauté dans une Nissan noire. » Ce témoin a pris une photo du véhicule et de sa plaque d'immatriculation. Dans les buissons où se trouvait le suspect, se trouvait aussi un fusil de type AK-47 avec une lunette, deux sacs à dos et une caméra GoPro. Après cela, nous avons entendu le témoin. Il a identifié cette personne comme étant celle qu'il a vue sortir des buissons et sauter dans la voiture.
Oui, une nouvelle tentative d'assassinat après celle du mois de juillet contre Donald Trump de la part d'un homme qui s'appelle Ryan Wesley Roth.
Il faudra s'interroger sur les services de sécurité, quand même sur la protection de l'ancien président des États-Unis. Ça fait beaucoup quand même, deux fois en deux mois. Donc le tireur, on l'a compris, était à 300 mètres de l'ancien président, près du bord du terrain de golf de Donald Trump. C'est un Américain pro-ukrainien. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est connu des médias puisqu'il avait été interviewé. C'était un Américain qui s'était rendu en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens face aux soldats russes. Il était parti combattre. Et même l'AFP avait interviewé cet Américain qui est aussi connu pour avoir un casier judiciaire qui s'étale sur plusieurs décennies. Et il publie également régulièrement des articles sur la politique et l'actualité. Donc c'est quelqu'un qui visiblement a envie de se faire connaître. Eh bien là, c'est fait avec son fusil AK-47 à lunettes qui a été retrouvé sur place. Deux sacs à dos aussi, du matériel d'enregistrement vidéo. Il a été arrêté. Joe Biden s'est dit soulagé que son rival n'ait pas été touché. Que pensez-vous
plus
de son
rival?
C'est plus son rival, tu as raison, même s'il soutient Kamala Harris. Donald Trump, donc visé en deux mois par deux tentatives d'assassinat. Qu'en pensez-vous, mes chers GG?
Jean-Loup?
Alors, moi je pense plusieurs choses. Déjà, tu vois qu'on nous a beaucoup vanté l'Ukraine et les pro-Ukrainiens et les brigades internationales qui allaient s'engager aux côtés des Ukrainiens. Tu vois que les pro-Ukrainiens ne sont pas forcément tous des anges. Tu parlais de son casier judiciaire qui s'étendait sur plusieurs années. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit il voulait se faire connaître. Eh bien, c'est réussi. Moi je pense que c'est l'une... tu vois, comme les tueries de masse dans les écoles, c'est l'une des grandes motivations. C'est-à-dire, c'est le mode Andy Warhol, c'est que tout le monde veut son quart d'heure de célébrité. Et donc, aux États-Unis, dans un pays où tu as des armes en accès libre et massif, bah, évidemment que aller tirer sur un politique ou faire une tuerie de masse dans une école, c'est un moyen de te faire connaître et d'avoir de la célébrité. Et donc, je pense que les médias ont une part de responsabilité. Je pense que les médias ne devraient pas donner les noms des auteurs.
Ni les noms, ni les visages.
Noms, ni les visages, parce que c'est exactement ce que les gars recherchent. En fait, ça ferait s'effondrer ce genre d'acte si on maintenait, on disait juste une personne, par exemple pour telle raison, un terroriste d'extrême droite ou un terroriste islamiste, a commis tel acte sans donner ni son nom ni son visage, en le maintenant totalement dans l'anonymat, tu les priverais de ce qu'ils recherchent, de leur motivation principale, et donc tu verrais ce nombre d'actes s'effondrer, en fait.
Elon Musk a écrit sur son réseau social X, ex-Twitter. Elon Musk, après cette tentative, a écrit et personne n'essaye d'assassiner Joe Biden et Kamala Harris. Voilà.
Ni Jean-Marc Ayrault.
Il s'est étonné avec la petite émoji. Tu vois, c'est bizarre, monsieur. Charles Consigny.
Donc on connaît ton amour pour Donald Trump.
Mon amour, non, mais je pense que Donald Trump fait l'objet d'un harcèlement médiatique et politique aux États-Unis, en Europe aussi, parce qu'en Europe, les gens ne s'inquiètent pas de penser tous la même chose. Mais aux États-Unis notamment, je pense qu'il fait l'objet de beaucoup de caricatures et que ça finit par exciter des gens qui ont déjà la base nécessaire. Alors après, il est un peu pris à son propre jeu sur un point, qui est qu'il est favorable au port d'armes. Et je pense que le fait qu'il y ait une législation favorable au port d'armes aux États-Unis n'est pas pour rien dans le fait que beaucoup de gens peuvent tout à coup s'armer et décider de s'attaquer à un président ou à un responsable politique. Mais sur le fond, je continue à penser que le harcèlement dont il fait l'objet depuis le début de son aventure politique n'est pas pour rien dans l'excitation de certains fous à son égard. Et je pense qu'il fait l'objet de ce harcèlement parce qu'il ne ressemble pas aux autres hommes politiques.
C'est plus que du harcèlement, là, hein, de toute façon.
Non, mais
parce que ça aboutit à des tentatives d'assassinat.
Oui, oui, bien sûr, mais je dis que le départ, c'est le harcèlement et l'issue de tout ça, le fait que des responsables politiques, des journalistes, des people, des stars de cinéma répète toute la journée à la télé que Donald Trump est un monstre, est un fou dangereux, est un danger, est un nazi, et tout ce que vous voulez, je pense que ça excite suffisamment les gens pour...
Lui-même, ouais, mais Donald Trump est aussi responsable de cette excitation. Quand dans un débat, il dit « les migrants mangent des chats et des chiens, mangent les chats et les chiens de vos voisins », les démocrates, s'ils arrivent au pouvoir, tueront les bébés après la naissance aussi, après 9 mois. On ne peut pas dire qu'ils calment les esprits non plus, quoi. Et c'est
non,
ce qu'il a dit dans le débat.
D'abord, je pense que ce qu'il affirme n'est pas totalement dénué de base factuelle. Et ensuite, je pense qu'il a subi, comme aucun candidat ou président avant lui, une hostilité folle d'un establishment d'élus et de hauts fonctionnaires américains et de gens bien installés dans les médias qui ne le supportent pas parce qu'il n'est pas comme eux, parce qu'il ne se soumet pas à leurs dogmes et parce qu'il est apprécié par une certaine Amérique profonde. Et donc, je pense que les attaques qui le visent sont en fait des attaques contre la démocratie.
Ce qui est dingue, c'est que celui qu'on apprend aujourd'hui être le tireur, lui-même est habillé comme un patriote. À la limite, il pourrait être un pro-Trump, puisqu'on le voit avec une veste kaki, avec des drapeaux américains partout aussi.
Oui, c'est un peu ça qui est dingue. C'est, alors, il semblerait que la protection de Donald Trump a posé débat juste après qu'il ait été attaqué récemment.
Lors de son meeting.
Voilà. Que, apparemment, les services spécialisés aux États-Unis sont aussi en manque de moyens. Et donc regarder à deux fois pour lui assurer une protection un peu plus poussée. Et là, il était sur son terrain de golf et le tueur était à 250 mètres. Donc on se demande quel degré de protection Donald Trump avait depuis qu'il a été touché par un tir. Que Donald Trump soit un populiste proche du peuple. Être proche du peuple, c'est pas un gros mot, et d'ailleurs, moi, ça me pose pas de problème. Il y a plusieurs façons d'être proche du peuple. On n'est pas obligé, au nom du sacro-saint de la proximité avec le peuple, de s'autoriser les outrances, les bobards, et puis la fabrication de la haine et la stigmatisation de certains. On n'est pas obligé d'aller draguer certains en détestant les autres. Et c'est un peu la marque de fabrique de Trump et de beaucoup de populistes. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que finalement, en parlant au peuple qui souffre, c'est la faute de celui dont on est souvent proche. Bah, moi, je dis que Donald Trump, qui fait ses écarts qu'il doit assumer, même si je trouve qu'en face, ils en profitent pour aussi l'assassiner de manière médiatique on va dire de manière exagérée, parce qu'il ferait mieux aussi de balayer dans leur propre camp. Mais en attendant, le populisme n'est pas une réponse. La proximité avec le peuple en est une, mais elle ne se fait pas au détriment de l'ensemble d'une communauté, et en l'occurrence là aux États-Unis. Donc l'argument Donald Trump est proche du peuple et de cette Amérique profonde. Oui, je veux bien, mais c'est pas parce qu'on est proche de l'Amérique profonde qu'on doit cracher sur l'Amérique urbaine et qu'on doit cracher sur l'Amérique diverse et plurielle. Et on peut faire un peu des ponts et on peut essayer de parler à tout le monde et on peut essayer d'avoir du respect pour les gens.
Quand t'as une élection à gagner, tu parles pas à tout le monde d'abord.
Tu trouves que les people woke,
les bobos de New York et de Los Angeles qui savent pas faire une phrase sans y placer une leçon de morale, tu trouves qu'ils font l'effort de parler
à tout le
monde?
J'ai dit, ils doivent balayer devant leur porte aussi.
Moi je trouve pas.
Ils doivent aussi balayer devant leur porte.
Qu'il y a beaucoup plus d'intolérance du côté démocrate que du côté républicain.
Et ils doivent balayer
depuis
devant
quelques
leur porte,
années
c'est
aux États-Unis.
Ah, mais c'est sûr.
Mais attention, il y a quand même une tradition aux États-Unis. Malheureusement, comme c'est comme cela.
D'assassinat politique.
Bah oui, je rappellerai que Ronald Reagan, on a tenté de le tuer. On a tenté de tuer également Franklin Roosevelt. Gerald Ford aussi a échappé à un attentat.
Kennedy, malheureusement.
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Donc en fait, moi je veux bien que Donald Trump.
Les deux frères Kennedy.
Attise la haine et que peut-être cette haine se retourne contre lui. Mais malheureusement, ça a touché aussi bien des démocrates que des républicains, ces tentatives d'assassinat. Donc je trouve que, attention à des analyses un peu trop rapide en disant oui mais vous comprenez Trump à force de prêcher la haine il la récolte, et je pense que malheureusement aux États-Unis qui est un pays très violent où l'arme à feu est dans la culture américaine, on tire sur des présidents depuis un peu la nuit des temps.
Le problème c'est qu'aux États-Unis tout le monde a des armes à feu. Imaginez en France le mouvement des gilets jaunes, si les Français étaient armés comme les Américains, ça aurait été une autre histoire.
Mais il y avait une statistique, c'est qu'en fait, président des États-Unis, statistiquement, est l'un des métiers les plus dangereux du monde. Mmh. Si tu divises le nombre de présidents par le nombre de présidents tués, c'est statistiquement l'un des métiers où tu as le plus de chances de mourir assassiné ou d'être victime d'une tentative d'assassinat. Et ce, en effet, c'est pas du tout nouveau, hein, puisque justement, Abraham Lincoln au 19e siècle. Et tu vois que c'est encore accru aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as affaire à une société qui est vraiment fracturée et dans laquelle, alors c'est pas moi qui le dit, c'est Emmanuel Todd dans son dernier livre, où il dit qu'il y a vraiment un besoin de violence aux États-Unis. Je vais te donner une statistique, c'est-à-dire qu'en mars 2020, quand toutes les écoles ont été fermées pour cause de Covid, ça a été le premier mois de mars depuis l'année 2002, donc depuis 18 ans, où il n'y a pas eu au moins une tuerie de masse dans une école aux États-Unis. C'est-à-dire que en gros, t'en as depuis plus de 20 ans, tu as au moins chaque mois une tuerie de masse dans une école aux États-Unis, minimum. Donc tu vois que c'est absolument énorme. Et le seul moyen d'y mettre fin provisoirement, ça a été de fermer toutes les écoles pour cause de Covid. Donc tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est profondément, et ça ne se voyait pas, même s'il y avait déjà des assassinats contre les présidents américains, les tueries de masse, ça ne se voyait pas dans les années 50, 60, 70. Donc tu vois qu'il y a un problème de fond psychologique, même psychiatrique, dans la société américaine, et peut-être qu'il nous guette nous aussi, il y a quelque chose de déréglé. Hein, tu vois, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'oncle Sam. Enfin, il y a quelque chose qui est déréglé dans la société américaine. Et je trouve que ça se voit des deux côtés maintenant. On voit honnêtement que beaucoup d'opposants à Trump sont complètement hystériques et ont un problème psychologique quand ils accusent par exemple Trump d'être un fasciste. Non, Trump, il a été président des États-Unis de 2016 à 2020, ce n'était pas le fascisme.
Il a eu l'affaire du Capitole quand même.
Et tu vois également que Trump, honnêtement, de son côté, même si je suis d'accord avec Charles, Trump me paraît moins intolérant que ses adversaires, mais Trump contribue quand même à hystériser la société américaine et il ne contribue pas à l'apaiser. Tu vois qu'il est quand même, il contribue à hystériser les choses, et je trouve honnêtement.
Et on connaît ça aussi en France, pardon.
Bah oui.
Je trouve qu'il y a beaucoup d'hystérie dans la vie politique française avec des leaders politiques qui font du Trump. Moi,
et honnêtement,
je vais faire un rapprochement, mais Mélenchon, c'est un peu notre Trump de gauche.
Zemmour aussi.
Aujourd'hui, voilà. Ou Éric Zemmour aussi.
Et je trouve que Trump également. Alors, moi, je ne suis pas, j'ai jamais été un critique forcené de Trump. Donc là, je peux d'autant plus me permettre de lire. Je trouve que cette année, surtout depuis qu'il est face à Harris, Trump fait une assez mauvaise campagne. J'ai trouvé qu'il avait fait une excellente campagne en 2016 et que là, il n'arrive pas à se positionner par rapport à Harris. Il fait une mauvaise campagne. Et d'ailleurs, après sa première tentative d'assassinat cet été, où il y a quand même eu un mort, un membre du public, il aurait dû justement profiter de ça et apparaître comme une figure de rassemblement, une figure un peu christique, en disant, bah voilà, maintenant je veux apaiser, je veux m'adresser à tous les Américains, je vais rassembler, je vais faire une campagne un peu plus nuancée, un peu plus au centre. Et là, il aurait pu capitaliser à fond sur sa tentative d'assassinat et sa survie quasi miraculeuse de cet été. Il ne l'a pas fait, il en a rajouté une couche en racontant n'importe quoi sur Harris, etc., etc. Donc je trouve que là, il fait une assez mauvaise campagne, contrairement à 2016 où elle était excellente.
Puisque tu parles d'hystérisation du débat, eh bien l'hystérisation du débat, elle est aussi à gauche.
Depuis, j'ai fait une bonne transition.
Depuis oui. que François Ruffin prend la parole et s'en prend à Jean-Luc Mélenchon, eh bien il y a les troupes de Jean-Luc Mélenchon qui se déchaînent contre François Ruffin. Ça s'est vu encore à la fête de l'humanité. On va l'évoquer dans un instant, ces deux gauches irréconciliables. Vous êtes dans le camp Ruffin ou dans le camp Mélenchon? À tout de suite au 32.
Pas très chaud, il est chez Mélenchon.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Charles Magnin.
RMC, Charles Matin.
En cette rentrée, j'ai la recette pour bien attaquer ce mois de septembre. On va être tous ensemble dès 4h30 pour toute l'info en direct, évidemment, toute l'actu sur RMC avec une équipe de choc. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel, ils sont tous là, évidemment, les invités, l'info, les chroniques et vous, plus que jamais, au 32-16, votre réveil avec le sourire et toute l'info. Ça se passe dès 4h30 dans Charles Matin sur RMC.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Des livres RMC, Fred Hermel.
Salut, c'est Fred Hermel. Vous êtes passionné de lecture et toujours à l'affût des dernières sorties? Vous ne lisez que de temps en temps? Ou même pas les livres qu'on vous offre à Noël? Vous n'avez pas ouvert de bouquin depuis le lycée? Quel que soit votre rapport à la lecture, ce podcast est fait pour vous. Des livres RMC. Je vous y attends avec des invités, des conseils de lecture et même un peu de musique. À retrouver un vendredi sur deux sur rmc.fr et l'appli RMC.
Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Tretz et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio. RMC, cette semaine, premier match du PSG en Ligue des Champions face à Gérone.
Et comme pour tous les grands matchs, RMC vous y envoie. Vivre l'expérience RMC.
Place pour le match, rencontre avec la team RMC Sport et passage en direct dans l'after, c'est ça l'expérience RMC.
Pour jouer, envoyez dès maintenant PSG par SMS au 732-16. PSG au 732-16.
Paris Saint-Germain, Gérone, au Parc des Princes, c'est uniquement sur RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec nous au 32-16, Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy, Zora Habitant. On va parler politique et de ce qui se passe à gauche.
RMC, les grandes gueules.
Ça a été une drôle de scène pour François Ruffin, un drôle de moment. C'était à la fête de l'humanité avec des sifflets, des applaudissements, une salle survoltée, divisée. Raphaël Arnaud, vous savez, c'est le député France Insoumise fiché S qui appelle à siffler François Ruffin. Et oui, c'est la foule devant, enfin la foule, ce sont sur le devant de la scène quelques-uns qui se mettent à scander « Nous sommes tous des antifascistes » à destination de François Ruffin, et celui qui leur demande de siffler, d'applaudir et de chanter, c'est Raphaël Arnaud.
qui est le jeune député insoumis qui était aussi fiché S hein, et qui a été élu. Oui, parce qu'en fait, François Ruffin se voit maintenant dans le camp des fascistes, si j'ai bien compris, parce qu'il a osé dénoncer l'électoralisme communautariste de la France insoumise. Dans son livre, il explique que dans les quartiers populaires, lorsqu'il rencontrait des Noirs et des Arabes, il montrait le trac de Mélenchon et là, il y avait un succès assuré. En revanche, quand il est dans des quartiers plus ruraux, eh bien là, Mélenchon, il fait fuir, il dit il y a un problème, on ne s'adresse pas à tout le monde. Et donc François Ruffin l'a écrit, l'a dit également chez Apolline de Malherbe la semaine dernière, et depuis, il est chassé en meute par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, surtout ses lieutenants, alors Raphaël Arnaud, tous ceux qui doivent finalement tout à Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin, c'est l'homme à abattre. Alors quand on dit, moi je trouve que le titre qu'on a mis de gauche irréconciliable n'est pas tout à fait vrai, parce que là on est dans la gauche radicale, il y a plus d'autres gauches, il y a une gauche social-démocrate, donc il y a peut-être trois gauches maintenant. Ruffin, ouais, il reste quand même un radical dans la gauche hein. Il est sur le fond, finalement il dit quand même la même chose que Jean-Luc Mélenchon,
les questions économiques,
sur l'économie, sur plein de choses. Donc attention, ne faisons pas de François Ruffin, un social-démocrate. C'est quand même, il est assez différent de Bernard Cazeneuve, par exemple. Mais en tout cas, François Ruffin, alors, la vidéo qui a tourné, que tu as montré, elle a beaucoup tourné, mais il faut quand même dire qu'il a été aussi applaudi. Donc on voit bien qu'il y a quand même une vraie fracture dans cette gauche radicale aujourd'hui.
Oui, parce que François Ruffin, juste avant, il interpelle la foule en disant qui est d'accord avec ce que dit Mélenchon, qui est d'accord. Et bon nombre de voix s'élèvent en disant non, plutôt en soutien de François Ruffin. Et ça, c'est la réponse qui est venue ensuite, Zora Bitton.
Alors, c'est quand même incroyable de voir que Raphaël Arnaud et l'ensemble des insoumis radicaux sont capables de traiter François Ruffin de fasciste quand eux-mêmes, quelques jours avant, ils partageaient le micro et l'estrade avec un islamiste fiché S pour lequel ils n'ont... Qui appelait à l'intifada et pour lequel ils n'ont rien dit. Donc,
qui appelait à l'intifada en France.
Oui, oui,
c'était
oui.
Ça le problème.
Quand l'antifascisme intervient alors qu'il fricote avec le fascislamisme, on se pose des questions. Il y a un vrai problème. Ce que dit Ruffin n'est pas une nouveauté, hein, c'est une pratique aussi des socialistes depuis très longtemps. L'organisation du racisme contre la ruralité et la France que j'appelle moi entre guillemets blanche, c'est quelque chose qui est organisé, que moi j'avais écrit et théorisé en 2014 dans cette gauche qui nous désintègre, et ça date de SOS Racisme. Les quartiers populaires sont un électorat par essence de gauche et par essence qu'il faut aller draguer, parce que c'est là-bas qu'il faut perdre son temps, parce qu'on ramasse. La ruralité, Terra Nova a proposé de la larguer, de ses ouvriers des gilets jaunes initiaux originaux du départ. Donc Ruffin ne fait que confirmer quelque chose qui existait déjà. Aujourd'hui, la France insoumise, par la voix d'un certain nombre de guignols comme Raphaël Arnaud et d'autres, ne se cachent même plus. C'est-à-dire que ils font la part belle à l'islamisme, tous les radicaux.
Mais François Ruffin, il crache pas un peu dans la soupe aussi, parce qu'il
il
a été
partie.
Élu grâce.
Il dénonce
tout cela après avoir été élu. Mais
c'est pour ça que j'ai dit.
François Hollande.
Mais non, mais
aujourd'hui,
c'est
pour... dit que ça supportait les insoumis, mais il a été élu avec la même étiquette.
Non, mais c'est pour ça que j'ai écrit que François Ruffin arrive un peu tard, on le sait, et il a dû lui-même faire ce genre de pratique. Après, François Ruffin est allé dans la ruralité depuis les Gilets jaunes, où il a fait un documentaire, je crois, ou un film, il a fait un livre. C'est dans les Insoumis, c'est peut-être le plus proche de la ruralité, mais n'empêche qu'il a fermé les yeux.
Il a toujours été un peu à part.
Voilà, il a toujours été un peu à part. Hein, et il fait partie de cette France qui va quand même à la rencontre des Français dans les campagnes. Mais n'empêche qu'il nous a rien appris de nouveau. L'organisation du clientélisme, elle est une pratique courante.
Jean-Loup ?
Ah bah écoute, moi, ça m'a passionné. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, je vois très bien ce que fait Mélenchon, qui est un vieux routier de ce genre de technique, c'est-à-dire qu'il fait exactement ce que Mao, le chef de la Chine communiste, a fait dans les années 60. Mao, dans les années 60, c'était un vieux, il était dépassé, il était contesté par des gens plus jeunes que lui au sein du parti, des quadragénaires, des quinquagénaires. Et en fait, comme c'était un malin, il a eu une idée de génie, il s'est appuyé sur les très jeunes, les gardes rouges, des mecs qui avaient 18, 20, 25 ans, et il a pris en étau générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une alliance du vieux Mao avec les jeunes pour prendre en étau les mecs du milieu. Il a lancé la révolution culturelle et il a balayé, il a purgé ses adversaires. On a fait quelques millions de morts au passage, mais c'est la Chine. Et il y a du monde. Et donc
c'est la vieille stratégie Mao.
Et c'est la vieille stratégie, c'est-à-dire il y a une alliance du vieux Briscard, ancien sénateur socialiste et ancien trotskiste Mélenchon, qui doit être un homme d'à peu près qui doit être septuagénaire maintenant, avec les plus jeunes, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, etc., et qu'il mobilise sur des thématiques dites d'antiracisme, et il prend en étau les naïfs comme Ruffin. Et
Jean-Luc donc, Mélenchon, il a quasiment l'âge de Michel Barnier.
Ben voilà, exactement. Il y a un étau entre Mao, Mélenchon et les jeunes gardes rouges, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, Giro. Et il prend en étau les naïfs Kadra et Quinca.
Donc il va se faire bouffer, François Ruffin.
Mais bien sûr qu'il va se faire bouffer, Ruffin. Ah. Donc,
attention, pardon, c'est le code, excuse-moi mon cher Jean, mais c'est le code la pour déverrouiller l'iPhone 16, tu vois. Le maoïsme aujourd'hui, c'est le nouveau maoïsme.
Bah oui, il est produit en Chine.
C'est les produits en Chine.
En Chine, évidemment.
C'est, on a tous la même chose,
c'est fabriqué
en Chine.
Mais c'est la victoire, bien sûr.
Pour déverrouiller l'iPhone 16, le nouvel iPhone, c'est à vous de jouer, à vous de gagner. Vous m'envoyez code par SMS au 73216, code par SMS au 73216, et vous le déverrouillez tout à l'heure. Vous passez en direct à 11h20. Il suffira d'essayer de donner un chiffre entre 0 et 9. Si vous le trouvez, le dernier chiffre du code, eh bien l'iPhone 16 est pour vous. Allez-y, envoyez code par SMS.
Attention, à l'exception du 9 et du 5 qui sont déjà tombés. Écoutez bien, ils sont déjà tombés ce matin.
Alors
donc voilà, donc il y a ça. Ensuite, deuxièmement, c'est aussi sur le fond, c'est que, alors là, je vais dire quelque chose qui va surprendre, c'est que du point de vue de LFI, je ne dis pas du point de vue de la France et de l'intérêt général du pays, mais du point de vue de LFI, je pense que la stratégie électorale portée par Mélenchon, qui est la stratégie communautariste, clientéliste, est meilleure pour LFI, elle leur assure plus de députés, que la stratégie de Ruffin de tenter de reconquérir les classes populaires de la France, ouvrières et paysannes.
Chez Marine
Le Pen. Bah oui, de la France périphérique. Regarde, Fabien Roussel, qui est exactement
mais
sur la même ligne.
Hein, non, mais
regarde, Fabien Roussel, qui est exactement sur la même ligne que Ruffin, regarde comment il s'est fait balayer aux législatives dans le bassin minier par le RN. C'est-à-dire
dans une circo qui appartenait aux communistes depuis
les années 60. Dans une circo communiste. Donc l'électorat de la France périphérique et de la ruralité, l'électorat blanc, ouvrier et agricole, il est perdu pour longtemps. Alors, et je vois mal comment il pourrait le reconquérir. Attends, je vais dire un tout dernier point.
Ah, vas-y, parce que voilà. On est dans un cours de philo. Là.
Dernier point, c'est que normalement, les cités, les gens issus de l'immigration,
qui s'endort à côté.
Ils devraient...
Il s'endort, Charles.
Il devrait être à droite. Mais comme on a la droite la plus bête du monde, notre droite la plus bête du monde ne parle pas.
Elle va retourner au pouvoir
à cet électorat.
Finalement, elle n'est pas si bête.
Oui, mais elle va y rester trois mois.
Oui, ne parle pas si bête. Alors que la gauche est un peu allée au pouvoir, elle oublie
le coche. La droite, elle devrait parler à l'électorat musulman, noir et arabe, qui en fait est un électorat conservateur, notamment sur les questions de société, qui n'a rien à faire chez Mélenchon.
Alors, Charles. Raphaël.
Allez, Raphaël Arnaud.
Non, moi,
Charles est fiché.
Je trouve que. Moi, je reconnais beaucoup de talent à Mélenchon. Il est très brocardé dans les médias parce que il serait coupable de certains excès, etc. Mais moi, je trouve qu'il a plus de talent que la gauche de droite, ou que la droite de la gauche, je ne sais pas comment le dire, mais tous ces mecs. Qui sont de gauche, mais qui, en fait...
La gauche qui plaît au Figaro.
Qui serait prêt à participer à n'importe quel gouvernement, qu'on croise dans les restaurants du 6e arrondissement de Paris.
Mélenchon aussi, on le croit.
Qui passent leurs vacances dans les belles destinations. J'ai rien contre, mais comme par hasard, c'est un peu ceux qui seraient prêts à n'importe quelle compromission... Qu'on voit mener un mode de vie très aux antipodes de ce qu'il professe.
Comme Mélenchon.
Alors, je dis pas que Mélenchon mange des boîtes de conserve, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le professeur Bonamy. Je pense que la radicalité de la ligne mélenchoniste n'est pas forcément une mauvaise chose sur le plan électoral pour la gauche. Après, je comprends aussi la nécessité pour quelqu'un comme François Ruffin de couper le cordon avec Mélenchon, de marquer son indépendance et d'aller peut-être vers quelque chose de plus raisonnable. Mais comme a dit Olivier, Ruffin, il reste quand même très à gauche.
Ah oui.
Donc je trouve que ces deux-là, si vous voulez, qu'ils s'entretuent alors qu'ils sont en fait de toutes petites nuances de la même gauche radicale, je trouve ça un peu autophage, pour utiliser un terme recherché.
Ouais, mais vous,
alors attends, je
pense qu'il ferait mieux de moins s'engueuler.
Je voudrais qu'on prenne Maxime au 32-16. Bonjour Maxime.
Bonjour les GG.
Bonjour Maxime, parce que vous êtes un auditeur assidu des GG, et vous pensez que Ruffin est un traître?
Ah mais bien sûr, Ruffin est le Macron de la gauche. Mais juste avant, je voudrais juste faire une petite incartade pour rectifier la fake news de Madame Bitanche, à laquelle il est habitué. Mais il n'y avait aucun député LFI quand l'autre malade est allé crier intifada sur son estrade. Oui.
Vous voulez les vidéos, on va les publier.
Oui, non, mais les vidéos ont été publiées et les journalistes ont bien précisé. Même le gars qui était présent et qui a dénoncé, qui a fait la vidéo, quand le journaliste lui a demandé, mais est-ce qu'il y avait des personnes de LFI, il a dit non, il était déjà parti depuis longtemps. Mais voilà, je voulais juste rectifier. Mais bon, c'est pas grave, avec vous, on est habitué. Maintenant, passons à monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin, pourquoi je dis que c'est le Macron de gauche? Bien parce qu'il a le même parcours. Monsieur Ruffin, il avait son petit moment Warhol, allez, tous les 2-3 ans, parce qu'il nous faisait un petit reportage sur les pauvres. Alors bon, c'est sûr, hein, ça intéressait les bobos parisiens. Mais personne, pas grand monde, ne le connaissait.
Non, ah ouais.
Et il a été repéré par la France Insoumise. Ils l'ont élu député. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une carrière politique. Moi, ce que je lui reproche, c'est pas de pas être d'accord avec Mélenchon. On a le droit. Tout le monde, on le voit bien, hein, quand on allume la télé, quand il y a plus de gens médiatiques qui sont contre qui sont pour. Mais par contre, moi, ce que je lui reproche, et pourquoi je dis que c'est un traître, c'est que ce gars-là a commencé à baver sur Mélenchon alors qu'il était encore chez LFI. Bon, s'il n'est pas d'accord avec Mélenchon,
il
alors
s'en
dans
va.
Ces cas-là, il s'en va.
Je il n'a jamais été vraiment LFI. Pardon, si vous suivez bien le parcours de François Ruffin, il a toujours été à part. Il n'a jamais
ça
été dans les instances. Il n'a jamais été dans les instances dirigeantes. Il a toujours été.
Combien de temps?
Il a toujours été un pas de côté, Ruffin.
Moi, je voudrais répondre sur.
Oui, je sais, pour vous.
Non, mais il ne voit pas. Je sais, dites à vos auditeurs combien de temps, monsieur.
Mais Maxime, je comprends les méthodes staliniennes des insoumis. Il faut fusiller. Vous utilisez un verbiage qu'on utilisait au Parti communiste français lors des belles années de Staline. Effectivement,
je vous retourne le compliment.
C'est-à-dire
parce que traître, je pense que dans
c'est vous qui avez utilisé ce terme.
Assez fréquent.
Non, bon, mais c'est vous qui avez utilisé ce terme. Moi, je n'utilise jamais ce terme-là.
Mais moi,
c'est un terme stalinien utilisé par le Parti communiste.
Je voudrais répondre, Maxime. Je vais vous répondre.
Oui, mais
je te rends. Non, mais je voudrais vous répondre.
En même temps, comprendre. Il m'interpelle sur le mot traître, donc je veux quand même lui répondre.
Oui, mais attendez.
Allez dans le dictionnaire, regardez le mot traître.
Quand on n'est pas d'accord avec le chef, on doit partir du parti. C'est exactement ce qui se passait lorsque le Parti communiste était très fort.
Alors, moi, est-ce que chez Macron, ça se passe autrement?
Bon, je voudrais répondre.
Vous n'étiez pas Macron de stalinien. Et pourtant, ils ont tous le doigt sur la couture. Et si jamais il y en a un qui bouge, il dégage.
Je suis pas d'accord. Chez Macron, il y a des tendances différentes.
Je peux répondre. Alors,
je vous Sarkozy qui parlait de son premier ministre comme d'un collaborateur dès qu'il a commencé à l'ouvrir.
Il y a des tendances différentes chez Macron.
Moi, je voudrais répondre. Je voudrais répondre sur le fait que chacun a acté l'idée d'un clientélisme de la part de Mélenchon et tout le monde a l'air
de...
attendez et tout le monde a l'air de trouver ça
va chercher les voix des juifs
c'est théorisé topique. Non mais
je va chercher la voix des maghrébins pourquoi non, parce que c'est le seul à défendre
la voix des juifs il y a 400 000 juifs en France de quoi vous parlez là de quoi et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils viennent faire non mais laissez-moi terminer vous avez pris la parole
dans les maximes laissez parler
tout le monde a théorisé l'idée que Mélenchon Mélenchon pratiquait du clientélisme, c'est-à-dire un espèce de colonialisme raciste qui consiste à servir à des populations des sujets bien spécifiques et bien particuliers pour les attirer à voter pour eux. En fait, c'est une pratique qui ne répond absolument pas aux préoccupations de ces populations, mais c'est une pratique paternaliste et colonialiste quand on voit le degré de bourgeoisie de LFI et comment ils utilisent et instrumentalisent les quartiers populaires à l'instar d'SOS Racisme dans les années 80 et du Parti Socialiste. Ce sont exactement les mêmes pratiques qui perdurent et qui sont largement devenues des pratiques intégristes de la part de LFI. Donc, excusez-moi, en tant que, comme vous dites, entre guillemets, racisé, je me sens insulté de savoir que les gens qui sont d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne ont pour premier refuge Mélenchon parce qu'il s'adresse à eux. En fait, nous sommes que des clients, nous sommes que des instruments politiques électoraux, parce que si ce n'était pas le cas, et si la gauche était efficace pour ces populations-là, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc vous actez et vous théorisez que nous sommes, nous, les indigènes encore des colonies anciennes, de Mélenchon qui, tous les jours, et encore pire depuis le 7 octobre, qui sert la gamelle de Gaza et de la Palestine, qui, comme des toutous, ne devrions aller voter pour eux parce que nous serions ces opprimés. C'est scandaleux, c'est honteux et c'est indigne, et vous n'avez pas de leçon à donner ni à la droite ni aux autres quand vous avez ce genre de pratique raciste. De plus, en actant volontairement et en assumant volontairement et en organisant un racisme des populations, des territoires, parce qu'elles ne voteraient pas pour vous. Ça, c'est pas faire de la politique, ça, c'est encore utiliser des gens comme autant des colonies en Algérie. C'est tout, point. C'est moi qui le dis et moi, j'ai toute la légitimité pour le dire parce que mon histoire, à la fois politique, à la fois d'expérience personnelle et professionnelle, fait que je sais très bien comment marchent ces manœuvres.
Bon, j'ai un droit de réponse ou
non, absolument pas.
Il a droit de parler, il peut répondre,
mais pour moi c'est zéro.
Oui, bah très bien,
zéro, c'est le monologue qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure. Vous nous avez parlé de Gaza, vous nous avez parlé
et vous les juifs en premier. Qui a parlé des juifs en premier?
De tout sauf du sujet, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Bah si, c'est ce que reproche Ruffin, le communautarisme de Mélenchon.
Le fait d'être maghrébine ne vous donne pas le droit d'avoir raison sur toutes les bêtises que vous racontez.
Non, mais les bêtises. Je pense que vous parlez d'électorat, vous parlez des juifs.
Vous n'êtes pas détenteur de la vérité.
Bah oui,
je remarque quand même que malgré tout ce qu'elle peut raconter, ça fait deux fois que M. Mélenchon fait plus de 20% aux élections présidentielles.
Il perd à chaque fois. Il y a des millions de gens
qui ne sont pas d'accord avec son avis de droite, parce qu'on sait très bien. Moi, ça me fait toujours marrer quand des gens de droite viennent nous expliquer ce qu'est la gauche et ce que devrait faire la gauche.
Excusez-moi, j'étais 20 ans au PS.
Si elle fait mal, vous savez ce qui se passe? Ben, Hollande, lui, il le sait. Quand il fait mal et qu'il prend les gens de gauche pour des cons,
La différence, c'est qu'Hollande a été élu président de la République, Jean-Luc Mélenchon n'y arrive pas, il en est à sa quatrième candidature. Effectivement, il fait un bon score au premier tour, mais il ne se qualifie jamais pour le deuxième. Peut-être que sa stratégie a quand même des limites.
Maxime, c'est un fidèle des GG quand il s'agit de venir au carton. il y vient régulièrement. Maxime, on a posé la question, est-ce que François Ruffin est l'ennemi numéro un de la France insoumise? C'est-à-dire Team Ruffin ou Team LFI, on va voir quel est le... C'est Team Ruffin, le résultat, à 87,6%.
On rappelle que Ruffin a refusé de serrer la main du député RN il y a deux mois à l'Assemblée nationale. Donc pour quelqu'un qui veut reconquérir l'électorat RN, il est aussi très incohérent, puisque il y a deux mois, il refusait de serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée.
Ce qu'avait fait Delogu aussi.
Voilà, totalement incohérent.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Egouet, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présente la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
C'est la rentrée, mais on prolonge la détente avec RMC. Il vous fait rire tous les matins avec Apolline. Retrouvez Arnaud Demange en spectacle pour rire de l'actu. On en a bien besoin.
Rendez-vous à Poitiers, Enghien-les-Bains, Bourges, Dijon, Marseille, Lyon, Paris et partout en France. Réservation sur arnauddemanche.fr avec RMC.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
Les podcasts RMC, c'est toutes vos émissions de la journée.
Mais aussi tous les podcasts exclusifs. Entre les pots de santé, le vestiaire,
Basket Time.
Le podcast basket d'RMC Sport.
Les podcasts RMC disponibles sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Cette semaine, jouez sur RMC, remportez vos AirPods
et peut-être
l'iPhone 16.
Mais pour le gagner, va falloir le déverrouiller.
RMC a 5 chiffres du code de verrouillage, à vous de trouver le 6e.
Alors, écoutez bien RMC et tentez votre chance.
Dès que vous entendez, envoyez code par SMS au 732-16. Code au 732-16.
RMC, première radio à vous offrir le nouvel iPhone 16.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
C'est ça. Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Sébastien Delogu a refait des siennes ce week-end. Cette fois, c'était sur Gaza. C'est un peu un jour une Delogu en ce moment. Ça commence à faire pour le député LFI qui admettait déjà la semaine dernière ne pas connaître le maréchal Pétain. Du coup, les amis, est-ce que ça ne vaudrait pas une petite prod de Louis Gerbier tout ça ? Bah si, écoutez.
Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal.
C'est pas qui est Pétain, quoi. Bon, j'ai entendu parler de Pétain. Lui, mais pardon. C'est un raciste, quoi.
Attendez, monsieur Delogu, madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule.
Oui, ben, ne me touche pas. C'est-à-dire ni recette pour laisser. C'est-à-dire ni recette pour laisser pas se gaver.
Monsieur Delogu, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement. On fait pas de cinéma.
J'ai juste dit, on me touche pas.
Encore une vidéo virale pour l'insoumis invité dans l'émission d'un youtubeur. C'était le 6 septembre dernier. L'élu marseillais a livré une analyse pour le moins floue sur le conflit entre Israël et le Hamas. Décidément, l'histoire n'est pas son point fort. Écoutez.
Si on creuse un peu plus, ça reviendrait à dire que les attaques du 7 octobre sont légitimes.
Eh ben, moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous ces terres se trouvent des des gisements, etc. Et donc du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or. Je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet, mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. Et donc du coup, ils nous ont expliqué que de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français. D'accord ? Et à financer le Hamas pour que derrière, les accords de 48 soient déstabilisés. Et c'est pas moi qui le dis.
Voilà, Sébastien Delogu qui reconnaît ne pas être trop instruit sur le sujet du Proche-Orient. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora ?
Franchement, je suis partagé. Hein.
Tu peux dire que tu t'en fous. Ouais, hein. T'as plus envie d'en parler. Quoi.
Charles ?
Non, on s'en fout pas.
Et Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Charles ?
Non, je trouve que c'est un naufrage invraisemblable et que ce garçon ne mérite pas d'être député. Je pense qu'il faut que son parti en tire les conséquences et ne le réinvestisse pas.
Il a un rôle.
Aux prochaines élections. Je trouve que c'est trop, quand on est mauvais à ce point-là.
Deux fois élu, hein.
Il faut changer de métier.
Alors, on ne s'en fout pas. Moi, je suis un peu. J'ai un avis un peu différent. C'est-à-dire qu'en effet, comme sur Pétain ou d'autres sujets, il raconte absolument n'importe quoi, il n'a aucune culture historique, mais ça c'est le signe de l'effondrement, c'est pas propre à Delogu, hein. C'est l'effondrement global, général de la culture historique, et c'est tout le monde, et c'est un énorme problème, donc il n'est qu'un révélateur parmi d'autres. Et ensuite, je suis désolé, sur le détail, il a raconté n'importe quoi puisqu'il ne s'agissait absolument pas des accords de 48 mais des accords d'Oslo 45 ans plus tard. Donc sur le détail, il raconte n'importe quoi, mais sur le fond, il a raison. C'est un fait et tout le monde le sait, c'est reconnu. Netanyahou l'a reconnu lui-même, que Netanyahou a financé le Hamas via le Qatar pendant des années et des années, parce que Netanyahou et le Hamas ont le même objectif, à savoir pas de solution à deux États. Et Netanyahou l'a lui-même reconnu publiquement, clairement,
et les vaches en or sous le sol à Gaza.
Non mais détail de l'augure raconte n'importe quoi sur la ligne générale de il y a une collusion encore aujourd'hui Netanyahou Hamas c'est tout à fait
exact. On pose la question sur son idée de
quoi. Non mais sur le détail il raconte n'importe quoi, mais ce qu'il dit de manière globale,
il a financé le Hamas pour conquérir les terres de Gaza parce que en dessous il y a de l'or.
Comme je l'ai dit sur le détail, c'est n'importe quoi.
Oui, mais comme c'est n'importe quoi, le reste c'est
Netanyahou a financé le Hamas.
Le reste, c'est inaudible.
Netanyahou est le meilleur allié du Hamas. Oui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'ils tous les deux, ils ne veulent pas d'une solution à deux États.
C'était le on s'en fout pas le plus court de l'histoire des GG. Dans un instant, Marine Le Pen voudrait qu'on revote dans 10 mois. Encore. Est-ce que vous êtes prêts à retourner aux urnes pour une nouvelle dissolution? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté à